Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la continuité de Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, écrit par Satprem. Alors aujourd'hui, je vais lire le chapitre de la transformation. C'est à la fin de ce livre. Le premier problème est donc d'adapter le corps, et pour cela, il faut des années, peut-être des siècles. Sri Aurobindo a travaillé pendant 40 ans et mère pendant 50 ans à cette adaptation. La nécessité pratique immédiate est donc de durer. Il faut aller plus vite que la mort au fond, dit la mère. La question est de savoir, dans cette course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier. Celui qui veut la transformation de son corps à l'image de la vérité divine, ou la vieille habitude de ce corps d'aller en se décomposant. Car naturellement, il faut que le travail soit fait en une vie. On peut, d'une vie à l'autre, retrouver les progrès antérieurs de notre âme et de notre mental, même de notre vital, qui se traduit en cette vie par des éveils spontanés des facultés innées, un développement déjà acquis. Il suffit de répéter un peu sa leçon pendant 10 ou 20 ans et on reprend un fil des vies précédentes. Il y a même une expérience assez saisissante où l'on voit exactement le point où s'achève le déjà fait des vies passées et où commence le progrès nouveau. On renoue le fil, mais pour le corps, le progrès cellulaire, le progrès de la conscience physique ne peut pas passer dans une vie suivante. C'est évident. Tout s'éparpille sur le bûcher ou dans la terre. Si l'on veut qu'il y ait une continuité dans l'évolution humaine, si l'on veut que l'être supramental apparaisse dans notre chair et non dans quelque organisme nouveau, inconnu, qui supplanterait notre humanité mentale, il faut qu'un être humain réussisse l'opération en une vie. Si l'opération réussit une fois, elle pourra se transmettre à d'autres. Nous en reviendrons. Sri Aurobindo disait qu'il faut 3 siècles. Il avait une vision très claire. Avant qu'un être supramental complet puisse apparaître, lumineux, léger, etc., tel que nous avons tenté de le dépeindre, par conséquent, il faut au moins, à défaut d'un être supramental complet, Platon non plus n'est pas né en un jour, fabriquer dans notre chair un être de transition. Un chaînon entre les deux types humains et surhumains, c'est-à-dire un être qui aura non seulement réalisé la conscience supramentale, mais dont le corps aura à la fois assez d'immortalité, si l'on peut dire, pour durer pendant la période de transition et assez de pouvoir et de souplesse pour opérer sa propre transmutation, ou sinon pour engendrer par propre d'énergie un être supplémental sans passer par les moyens ordinaires de la naissance terrestre. Car la lourde hérédité animale et humaine qui pèse dans notre subconscient, qui se transmet automatiquement par notre conception matérielle est l'un des plus difficiles obstacles de la transformation. Au moins aussi difficile, sinon plus, que les bouillonnements d'Agni. C'est la difficulté numéro 2. Peut-être, en fait, est-ce la difficulté beaucoup plus que les difficultés spectaculaires du corps. Nous sommes là en présence des deux problèmes fondamentaux du chercheur. Donner aux cellules le corps, du corps la conscience d'immortalité qui existe déjà dans notre âme et même dans notre mental, et nettoyer complètement le subconscient. Le progrès d'Agni dans le corps dépend, semble-t-il, de ces deux conditions. Le travail reste donc toujours un travail de conscience. Tout d'abord, la durée. L'expérience, on s'aperçoit que le problème d'immortalité est toujours lié à un problème de vérité. Et immortel, ce qui est vrai. Si nous étions totalement vrais, nous serions totalement immortels du haut en bas. Jusqu'à présent, il n'y a guère que notre âme qui soit immortelle, parce qu'elle est la vérité de l'esprit en nous. C'est elle qui passe de vie en vie, grandit, progresse, devient de plus en plus consciente. Le mental aussi, dès qu'il est suffisamment organisé autour de la vérité centrale, il pense la vérité, qu'il veut la vérité, et immortel, on retrouve très bien ces vieilles formations. Il y a des vérités excessivement familières, des besoins de vérité inexplicablement impérieux. Le vital même est capable d'immortalité dès qu'il est suffisamment intégré à la vérité centrale, l'être psychique. On émerge dans une autre dimension, familière comme il y a des milliards, mais ce n'est guère fréquent. Notre force de vie est généralement beaucoup plus occupée à toutes sortes de passe-temps qu'à la volonté d'édifier une vie vraie. Plus on descend l'échelle de la conscience, plus le mensonge s'épaissit, et plus cela meurt naturellement parce que le mensonge est d'essence pourrissante. Si le vital est déjà passablement obscur, le corps, lui, est plus plein de mensonges, les plus évidents. Comment ce qui est vital pourrait-il être vieux, laid, usé, malade? Le vrai rayonne. Il est beau, lumineux, éternel. C'est évident. Le vrai est invincible. La mort et la vieillesse ne nous attrapent que par notre défaut de vérité. La mort et la vieillesse ne nous attrapent que par défaut de vérité. Reconnaissons-le, la mort est sage pendant longtemps. Monsieur Dupont immortel serait un vrai gâchis de l'immortalité. La mort, en fin de compte, est un gardien fidèle de la vérité. Il est étrange de voir comment partout, toujours, les choses ont deux visages. Si l'on regarde d'un côté, il faut lutter, se battre, dire non. Si l'on regarde de l'autre, il faut rendre grâce et encore grâce, dire oui et encore oui. Il faut pouvoir les deux. la chasse aux mensonges du corps, maladie, inconscience, vieillesse, ne vient donc qu'en dernier lieu quand la transformation des étages supérieurs, mental et vital, est déjà faite et que le reste de l'être vit dans la vérité et établit dans la vérité. Ce serait une parfaite erreur de penser qu'on peut entreprendre le yoga supramental avant d'avoir parcouru tous les autres échelons. Il faut aller tout en haut pour pouvoir toucher tout en bas, nous le savons. Si le silence est la condition de base de la transformation mentale, si la paix est la condition de base de la transformation du vital, l'immortalité est le fondement de la transformation physique. Non pas une immortalité extérieure, mais intérieure, dans la conscience cellulaire. Dans le silence mental et dans la paix vitale, nous avons démêlé les innombrables vibrations du monde, les influences secrètes qui nous font agir, sentir, penser dans l'immobilité de la conscience physique. De même, nous commençons à démêler un étrange pullulement de vibrations et voir de quels grains nous sommes faits. Cellulairement, nous vivons dans un chaos complet. C'est un maelstrom de sensations, fortes, agréables, douloureuses, aiguës, des pointes en haut, des flèches en bas, et dès que le tourbillon s'arrête, c'est comme un trou d'angoisse qu'il faut combler à tout prix par d'autres sensations et toujours plus de sensations. On ne se sent vivre que par quand ça bouge. La base du travail est donc d'amener une immobilité complète dans ce chaos. Pas une égalité d'âme, mais une égalité de cellules. Alors le travail de vérité peut commencer. Dans cette égalité cellulaire, notre corps sera comme une vague transparente où les moindres vibrations deviendront perceptibles, donc saisissables, donc maîtrisables. Toutes les forces de maladie, de désintégration, de mensonges, toutes les déformations, les difformités subconscientes et leur horrible petite faune se mettront à grouiller visiblement dans la clarté et nous pourrons les pincer. L'effervescence d'Agni, en définitive, ne tient pas tant à une impossibilité d'adaptation cellulaire qu'à une résistance de nos obscurités. Seule cette immobilité purifiante peut dégager le terrain et libérer le mouvement foudroyant d'Agni, sans que le corps se mette à vibrer à l'unisson, s'affole et entre dans des tempêtes inconsidérées. Une fois cette immobilité cellulaire relativement établie, nous ferons une première découverte. Nous nous heurterons à un obstacle majeur, qui est une aide majeure dans le travail de Sri Aurobindo de transformation. Car toujours sur tous les plans, l'opposition est exactement adaptée à la force Il faut faire un pas en avant. C'est le poids mort et le levier. Déjà, nous avions reconnu sous notre mental pensant un mental vital qui trouve des justifications merveilleuses à tous nos désirs, toutes nos impulsions. Puis, un mental physique qui répète et qui répète et qui répète mille fois les mêmes incidents, comme une scie. Mais il y a une couche plus profonde encore, un teuf mental, si l'on ose dire, que Sri Aurobindo appelle le mental cellulaire. C'est vraiment un mental des cellules ou de groupes de cellules qui ressemble beaucoup au mental physique par son inépuisable capacité de répéter la même rengaine, mais qui ne se limite pas à la région cérébrale ni à la trituration mécanique des bribes de pensée. Il est partout dans le corps, comme des millions de petites voix que l'on a vite fait d'entendre quand d'autres couches mentales se sont clarifiées. Et il remue infatigablement, non plus des déchets d'activité consciente, mais toutes nos impressions sensorielles. Il suffit qu'une fois, un groupe de cellules ait été touché par une impression, une peur, un choc, une maladie, pour qu'elles reproduisent indéfiniment leur peur, leur raidissement, leur tendance à la désorganisation ou le souvenir de la maladie. C'est un mental grégaire, absurde, qui gagne de proche en proche et vibre partout, sans fin, qui accroche toujours les mêmes longueurs d'onde, les mêmes suggestions décomposantes et réagit imperturbablement aux mêmes excitations, comme le chien de Pavlov au coup de sonnette. C'est la peur de vivre engendrée dans la matière. C'est le premier effort conscient dans la matière. Et naturellement, le petit bout d'initiative dont il dispose sert à nous appeler tous les désordres par crainte et l'inconscience de la mort comme un repos. Mais ce mental cellulaire, qui est d'une puissance assez formidable, si l'on y songe bien, comme les fourmis sur l'éléphant, peut mettre son absurde mécanique au service de la vérité comme du mensonge. Si une seule fois on lui fait accrocher une vibration de lumière, il la répétera avec l'entêtement d'une mule. Et chaque chose remarquable, il la répétera jour et nuit, sans arrêt. Il y a un nota bene dans l'utilité des mantras qui peut canaliser une vibration d'une intensité déterminée en n'importe quel point du corps ou en tout point, et le mental cellulaire s'en empare. Quoi que l'on fasse extérieurement, travail, discussion, sommeil, il ressassera sa vibration automatiquement d'une façon tout à fait indépendante. On comprend donc son importance considérable pour la transformation. Peut-être un singulier fixateur de la vibration supramentale. Voici ce qu'en dit Sri Aurobindo. Il y a aussi un mental obscur, un mental du corps, des cellules, des molécules, des corpuscules, en quel le matérialiste allemand a parlé quelque part d'une volonté dans l'atome et la science récente, en présence des imprévisibles variations individuelles de l'électron, est sur le point de s'apercevoir que ce n'est pas une métaphore, mais l'ombre portée d'une réalité secrète. Ce mental corporel est très tangiblement réel par son obscurité, son attachement obstiné et mécanique au mouvement du passé, sa facilité à oublier, son refus du nouveau. Il est l'un des obstacles principaux à l'infusion de la force supramentale dans le corps et à la transformation du fonctionnement corporel. Par contre, une fois effectivement converti, ce sera l'un des instruments les plus précieux pour stabiliser la lumière et la force supramentale dans la nature matérielle. Que dire de ce travail ? Il est infinitésimal, et la façon de le faire n'est pas d'entrer en des méditations profondes qui ne touchent que le sommet de notre être, pas de réussir des concentrations et des extases extraordinaires, mais d'être en plein dedans, de travailler au niveau du corps, tout en bas et à chaque minute du jour et de la nuit. Alors, je termine aujourd'hui cette merveilleuse lecture de la transformation du corps de Sri Aurobindo, ou l'aventure de la conscience de Satprem. Alors, je remercie Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan. Thank you, Priya.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India. Thank you.